Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos virées digestives pour cette nouvelle année 2020 et cette 30e émission qui nous conduit à avoir 60 films. Meilleurs vœux à tous, alors je sais, l'émission est un peu en retard. Ce début d'année, je croule sous le travail et je dois bien avouer que, pour des raisons aussi plus personnelles, j'ai dû un petit peu m'éloigner des micros et des réseaux sociaux. Maintenant, je reviens en forme et vous allez voir ce que vous allez voir, c'est-à-dire deux films de requins. Bon, je vous rappelle quand même vite fait le principe de l'émission, hein, au cas où vous découvririez le podcast au bout de 30 épisodes. Nous avons sélectionné deux films de requins dans la très très grande liste du genre, et nous allons les analyser avec tout le sérieux et le pédagogisme disponible pour en tirer les capacités squalographiques. Il s'agit de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de la réalisation, de la qualité des requins, leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient de Nanaki à Aki, rajouter 2 points d'appréciation personnelle plus subjective, et au total arriver à une note sur 20 qui nous permettra de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes: incontournable au-dessus de 16, bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4, et si on est en dessous de 4, c'est dans les à fuir. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux films assez rares et oubliés. Il s'agit de Dark Waters de Philip Jouvas en 2003, et il s'agit de Shark Kills de 1976 de William McGraham, qui partagent d'ailleurs deux choses assez amusantes. D'abord, une trame un peu similaire, puisqu'on a des requins qui vont attaquer les plongeurs travaillant dans une station de forage pour commencer le métrage. Et puis ensuite, sur leurs affiches respectives, le même requin, simplement avec un petit décalage dans l'image, l'un est tourné à 45 degrés par rapport à l'autre. Voilà, sur le marché du DVD bon marché, le photoshopage est toujours bon à prendre. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Less than 1 year ago, a U.S. salvage team off the coast of Mexico mysteriously...
You see that? See what?
Disappeared.
What's the mission?
Now, the truth slowly becomes unveiled. And a deep sea lab secretly plotting to genetically engineer the most dangerous predator on Earth becomes exposed to a horrific and chilling degree.
In 7 years of tests, we have never had control failures. I believe it's just a matter of time until we solve the glitch.
Glitch?
What the hell is that?
If you're asking me, I'd say that's a coordinated shark attack.
It's more than military. CIA, NSC, they all want weapons created by nature.
What, did we run out of torpedoes and cruise missiles?
You have no idea what kind of damage those sharks can do!
Better start talking or I'm gonna end it right now!
It's a top secret black program. Something that was codenamed Dark Waters.
They're making a mistake!
Welcome to the bottom of the ocean.
J'y ai cru. Ouais, franchement, j'y ai cru pendant bien 15 minutes. La première attaque de requin, la présentation des personnages plutôt sympathiques, quelques répliques bien senties, le début d'un mystère, et puis fatalitas, très vite, le film s'est déballonné pour retomber dans l'ornière de la série B fauchée et prévisible de Vidéoclub du début des années 2000. Ah oui, au passage, parce que je vous parle de Dark Waters, mais c'est pas le film de Hideo Nakata, hein. C'est pas non plus le film qui sort cette année avec Anna Tawai et Mark Ruffalo de Tonnage. Non, non, c'est la version Philip Jouvas avec des requins méchants et des sous-marins qui se courent après. Ouais, le pur produit de Vidéoclub de son temps, qui en plus se fout de notre gueule, parce qu'en fait, les squales promis sur l'affiche, ils font ici que de la quasi-figuration. Apparaissant à peine dans un métrage plus occupé à aligner des bastons dans les sous-marins, plutôt que de nous offrir un shark movie digne de ce nom. Franchement, c'est rageant. Posons donc les enjeux. Nous commençons donc par l'attaque sur des scaphandriers travaillant en grande profondeur sur une plateforme pétrolière, par une escouade de grands blancs énervés qui semblent dotés d'une intelligence de chasse particulièrement élevée. Le milliardaire propriétaire de la station de forage recrute Dale Cantrell et Robin Turner pour enquêter dessus. Nos héros sont des océanographes réputés, mais qui, ces dernières années, ont troqué leur éthique professionnelle contre une certaine tendance à escroquer le gogo de passage pour monter de juteuses expéditions censées découvrir l'Atlantide.
Dan Cantrell est le descendant d'une famille de grands explorateurs marins. Son grand-père a publié plusieurs livres sur les mammifères marins, dont la plupart sont toujours édités. Son père était lui-même un illustre biologiste marin. Ses recherches sur les requins ont généré plus de 30 brevets de recherche médicale. Aujourd'hui, vous avez l'honneur de rencontrer le docteur Dan Cantrell, troisième du nom, un chercheur marin et biologiste qui est sur le point d'entamer la phase finale de son odyssée de 10 ans à la recherche de l'Atlantide. Mesdames et messieurs, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter le docteur Dan Cantrell.
Mesdames et messieurs, l'Atlantide, la dernière grande aventure. Un mystère enveloppé dans une énigme et caché au fond de la mer. Une civilisation qui se situe à mi-chemin entre l'imagination et la réalité. À présent, chacun de vous peut participer à la dernière grande découverte du nouveau millénaire.
En plus, le milliardaire propriétaire de la station de forage est peut-être un peu soupçonné d'être derrière la mystérieuse disparition du père de Quantrell. Donc il va plutôt les recruter en les enlevant, carrément. Tout ce petit monde embarque sur le sous-marin privé du riche magnat du pétrole pour rejoindre la station, quand ils sont arraisonnés en chemin par un sous-marin de l'US Navy qui n'a pas trop envie de les voir traîner dans le coin. Il faut dire que les requins tueurs seraient peut-être un projet militaire secret qui aurait mal tourné. Et nous voilà de retour au début des années 2000 en Bulgarie, au moment où la démocratisation des images de synthèse a permis un âge d'or du film de monstre. Surtout qu'à l'époque, la division internationale du processus productif permettait d'aller chercher en Bulgarie des techniciens et des acteurs de complément pas trop chers. Et à ce petit jeu-là, Philippe Giros est un habitué qui nous avait déjà offert un Shark Hunter pas si mal dans la catégorie attaque animale low cost. Et puis surtout depuis les années 90, c'est un spécialiste de production pour Vidéoclub qui nous a offert tout un tas de sucreries, de Velocity Trap à Digital Man, en passant par Rage of the Yeti ou Viking Quest. Des boas, des pitons, des boas versus pitons, des détours mortels 3, 5 et 6, des Lake Placid 2, des Lake Placid versus Anaconda. Ouais, les boas et les pitons étaient en RTT. Le gars fait feu de tout bois, sont débordés de talent, mais c'est un faiseur qui sait faire. Et malgré la faiblesse du budget, qui peut, quand il est bien motivé, nous offrir des séries B plaisantes. Et puis quand il bâcle, ben il bâcle. Et sur celui-là, ben on va être quand même plutôt dans la tambouille insipide. On s'enfonce dans des péripéties prévisibles et interchangeables, qui, soyons honnêtes, après un bon début, font vite décrocher l'amateur le plus indulgent. Oui, parce que tourner des fusillades et des poursuites dans les courses de sous-marins, c'est toujours plus facile et moins onéreux que d'essayer de faire un vrai film d'angoisse subaquatique. Et il faut dire aussi que quand son acteur principal s'appelle Lorenzo Lamas, le rebelle, plus connu pour ses high kicks dans ta face et sa coiffure de minet que pour la subtilité de son jeu d'acteur, ben forcément faut faire avec. Mais je serais un petit peu mauvaise langue à trop le critiquer car il s'avère finalement assez à l'aise en aventurier mi-escroc mi-savant, capable de rouster des soldats surentraînés et de piloter des bathyscaphes au milieu des requins, comme d'essayer de jouer de son charme et de son bagou pour essayer de lever des fonds. Surtout que le couple qu'il forme avec Simon Jane McKinnon, dans le rôle de Robin, est plutôt réussi. Les deux s'envoyant vanne sur vanne, et cette dernière, quand les punchlines ne suffisent pas, n'hésite pas à faire le coup de poing ou le coup de flingue, parfois en maillot de bain.
Tu vois, je t'avais dit de lire les instructions! Ces torpilles ne partent que sur des cibles fixes.
Ce sont des torpilles sismiques! Elles nettoient tous les obstacles sous-marins!
Oh, merci de nous donner ce petit détail.
Touchez pas votre sang.
Quoi ?
Enlève-moi ton haut.
Quoi ?
Enlève ton haut maintenant.
Toi, enlève ton haut.
Allez, tu portes un soutien-gorge, fais-le.
J'aurai. Oui, il me tape sur le système.
Aïe ! Mais merci beaucoup, Dan. Qu'est-ce que vous faites, là ?
Vous verrez, aidez-moi à ouvrir la trappe.
Tu utilises le sang pour attirer les requins ?
T'as tout compris. Donne-moi ton fusil.
Alors là, tu rêves, c'est moi qui tire.
D'accord, t'as gagné. C'est toi qui tires.
En fait, globalement, ce film, c'est un peu une occasion manquée. C'est pas génial, ça fonctionne assez mal, et pourtant, on voit les intentions derrière. Aussi étonnamment, c'est là aussi qu'on voit que le temps file. Le film a vraiment une vibe début des années 2000, tant dans sa forme que dans son fond. Notamment pour sa forme dans les effets spéciaux numériques datés, qui commencent 15 ans plus tard, à prendre un tour presque poétique, avec des textures d'eau, de peau de squale, qui sont un petit peu irréelles. Alors c'est peut-être moi, avec l'âge, en ayant vu évoluer vraiment toutes les techniques pour avoir des requins de cinéma, mais je trouve qu'un petit peu, comme les animations image par image à l'arrêt Harryhausen, toutes proportions gardées, eh bien, on commence à accepter ce genre d'imperfection technique comme faisant partie du charme un petit peu suranné de l'ensemble. Voilà, ça y est, la nostalgie a gagné.
T'es un molly ? La CIA te fait bosser dans la paperasse.
Surtout que, quoi qu'on puisse dire du film, il y a une certaine production de value générale, avec de la maquette, des décors, des scaphandres, souvent repiochés à droite à gauche dans d'autres productions tournées en Bulgarie à l'époque, des productions UFO de Philip Giros. Mais ça suffira pas pour garder éveillé la plupart des téléspectateurs. Reste quelques scénettes amusantes, comme les requins qui foncent sur les sous-marins et qui les défoncent littéralement à coups de tête, les répliques des personnages, et puis le fait qu'on nous refait un peu d'ailleurs dans un sous-marin, en se cachant à droite à gauche pour essayer de surprendre les soldats. Le tout un peu à la post-X-Files, avec complot gouvernemental et puis expérimentation secrète. On est dans le classique, on est dans le déjà-vu. Et c'est bien le problème du film. Même souci pour la musique de Christopher Holden, un type qui a commencé dans la série B à la fin des années 90 et qui maintenant bosse essentiellement pour sonoriser des émissions de flux télé style émissions de ventes aux enchères ou pseudo-paranormal à la Ghost Asylum. Il nous compose un thème tonitruant qu'il nous ressort pour toutes les scènes d'action. Et comme le film aligne les bagarres, les fusillades et les poursuites pour faire bien sur la bande-annonce, on a toujours le même thème qui revient, et avec juste quelques petits morceaux de piano, le temps de quelques scènes un peu plus intimes. Bref, un coup d'épée dans l'eau, malgré des prémices prometteurs pour un film de requin où ceux-ci sont bien trop vite relégués au second plan. Et c'est dommage parce qu'il y a aussi un petit travail quand même sur la qualité des requins. Comme je l'ai dit, les images de synthèse sont assez travaillées pour une petite production de l'époque, et finalement, c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas beaucoup plus les squales. Il y avait un potentiel, mais non. On fait plus à l'économie avec des plages de discussion et des bastons. Il faut bien quand même que Lorenzo Lamas lève la jambe. Et voilà, comme je l'ai dit déjà précédemment pour Mega Shark vs Giant Octopus, quand la partie la plus intéressante de ton film de requin, c'est le cabotinage de Lorenzo Lamas, eh ben fatalement, c'est qu'il y a des questions à se poser sur la réussite globale du projet.
Hé, vous connaissez les sous-marins ?
Oui, monsieur. 4 croisières sur le USS Jimmy Carter, 3 sur le Newark.
Du service en guerre ?
Contre qui ?
Les Russes.
Je n'avais que 9 ans la dernière fois que les États-Unis et les forces navales soviétiques sont entrés en guerre, monsieur.
Vous avez... Vous me paraissez plus âgé, en fait.
Merci, monsieur.
Qu'est-ce que tu as ? On doit partir dans moins d'une heure.
Je sais. T'as déjà eu la sensation que t'allais jamais revoir quelque chose ?
Oui, après chaque rencard où je leur piquais leur portefeuille. Arrêtons ces conneries fatalistes, ça me fait flipper.
D'accord.
Allez, embarquons pour les capacités squalographiques de Dark Waters. Alors l'originalité, je veux dire que c'est insuffisamment acquis, ça lorgne beaucoup trop sur Peur Bleue, et le film ne sait pas vraiment quoi faire de son concept. Donc il se résume très très vite en des bastons interchangeables. L'histoire est insuffisamment acquise, comme je l'ai dit, un bon début, et puis des péripéties téléphonées qui n'intéresseront personne. Les personnages, eh bien, ils sont en cours d'acquisition. Allez, soyons sympas, il y a une vraie alchimie entre Lorenzo Lamas et Simon McKinnon, en océanographe et scro badass. On aurait presque pu espérer les voir revenir sur d'autres productions, parce que il y a quand même quelque chose qui tourne bien entre les deux. Après, les autres acteurs font le taf, honnêtement, c'est quand même beaucoup d'acteurs bulgares. Pas toujours très très acteurs studio. Pour l'ambiance, eh ben non, c'est non acquis, il n'y a pas vraiment d'ambiance. On s'ennuie quand même assez ferme dans ce film. Même si ça bouge à l'écran, on regarde ça avec un ennui poli. La réalisation est insuffisamment acquise, Philip Giros est meilleur que ça. Il arrive à faire quelques scènes qui vont bien, comme la première attaque, mais tout ça reste bien propre et impersonnel. Franchement, on a connu Giros bien plus inspiré. Les requins enfin sont insuffisamment acquis. Ils sont plutôt pas mal fichus par rapport aux standards de ce qui se faisait à l'époque dans le film à petit budget, c'est juste dommage qu'on les voit pas. On les voit vite fait sur une ou deux attaques, il y a des scènes assez rigolotes où ils s'en prennent carrément à des sous-marins à coups de tête. Et en dehors de ça, c'est même pas le fait qu'ils puissent être une menace dans l'endroit, c'est qu'on les oublie carrément dans le métrage. C'est vraiment très très ennuyeux, ce qui nous fait un petit 6, un demi-point pour les 15 premières minutes qui mettent une petite ambiance. Allez, 6,5, c'est nul. Alors certes, je sais bien que les ambitions de ce genre de film sont jamais très très élevées, mais là, on a quand même une petite impression de gâchis. Oui, alors je demandais pas à cette production de Vidéoclub d'être Citizen Kane. Moi, si on m'offre du requin, de l'action, des péripéties, moi, globalement, je suis bon public, hein, et je suis même très indulgent pour les limitations techniques de l'époque. Le tout, bah, c'est de faire quelque chose d'intéressant. Ou au minimum, un peu original. Et c'est pas le cas ici. Alors, est-ce que le film suivant, Shark Kills de 1976, va réussir à relever le gant? Eh ben, je vais être sincère, ça s'annonce pas sur les meilleurs auspices.
Well, here's to the money art.
I'll drink to that.
What does the R stand for, anyway?
I don't know. What difference does it make? Pick a new one.
Don't you know it's bad luck to change the name of a boat?
Yeah, but it's been changed 5 times already.
Or what was the first one?
Who cares? It's not what you call it, it's what you do with it that counts, right?
I'll drink to that. Hey, they're salvaging a Spanish galleon, the Mare Nostrum, right off Jalapa. They might need some divers. What do you say we go down and check them out?
Yeah, I'd like to do a little fishing up the Columbia River. They say the salmon there jump right into the boat, huh?
Now, just the very thought of fish makes me seasick. Woo!
Yeah, I got it.
Got what?
Name of the boat.
What boat?
Hey, what boat, man? Our boat. We'll call it the Tiburon. How about that, huh?
Tiburon. Tiburon?
El Tiburon?
Hmm? El Tiburon, the shark! Salud!
Le problème quand on se lance dans un genre de projet complétiste à la Shark Parade comme moi, c'est qu'on doit aller souvent déterrer des productions complètement oubliées et complètement oubliables, tel ce Shark Kill de 1976, ressorti on ne sait trop comment en DVD aux États-Unis au début des années 2000 avec une jaquette tapageuse et évidemment parfaitement mensongère. À croire vraiment qu'il y avait un manque à combler à ce moment-là, parce que quelle idée d'aller ressortir ce pilote de série télé parfaitement mollasson et impersonnel, qui avait déjà pas su séduire le public en son temps, et encore moins les producteurs pour l'étendre de façon définitive à une série. Ce qui explique au passage pourquoi il n'y a pas de bande-annonce. Hein. Vous avez pu l'entendre dans l'introduction de cette chronique, j'ai compilé quelques extraits pour pouvoir vous donner une idée de l'ambiance. Nous voici donc transportés dans une station pétrolière des années 70, où un biologiste marin tente de prévenir les plongeurs qui travaillent sur les oléoducs du danger d'un stock-shot de requins blancs qui rôde dans les parages. Évidemment, il est d'abord moqué par les ouvriers, mais quand ceux-ci sont attaqués par la bête, une prime de 200 000 $ est mise sur la tête du requin, ce qui doit représenter beaucoup plus que le budget du film.
Mr. Shark?
That's not our shark.
How do you know?
Too small.
Well, how big is the one we're hunting for?
Judging from how it took your brother's leg, I'd say about 15 feet.
15 feet? Well, this boat is only 18.
Le succès des Dents de la Mer a immédiatement suscité des vocations du chasseur de fauves chez les producteurs, et une flopée de petites productions se sont engouffrées dans le genre, avec plus ou moins de talent. Spoiler alert, plutôt moins. Au mieux, comme dans Le Grizzly sorti la même année, on change la bestiole, on déplace dans de nouveaux décors, et ensuite on recycle le scénar avec pas mal d'images de documentaires animaliers pour lier la sauce. Donc dès 1976, le poncif se ramassant à l'appel, rien n'empêchait de faire une ressucée molle du film de Spielberg. Et dans le cas qui nous intéresse, il s'agissait de faire profiter de la hype de Jaws à une série. Une série dérivée d'un concept assez populaire mais complètement oublié chez nous, Moving On, sorti sur Antenne 2 sous le titre « L'aventure est au bout de la route ». Une histoire assez simple qui racontait les aventures pittoresques de deux routiers sympas sillonnant les États-Unis. Pourquoi ne pas faire la même chose avec deux gars sur un bateau ? Ben non, ça n'a pas marché, parce qu'il faut quand même rendre le film un minimum intéressant, et là, franchement, c'est poussif. Alignant des scènes de parlotte interminables à de futures apparitions du Grand Blanc qu'on nous vend comme une gigantesque menace, un prédateur assoiffé de sang, enfin qui à l'image apparaît plutôt comme un placide petit requin en balade. Bref, tout ça est bien ennuyeux. Tout au plus, sans trop spoiler le film, hein, si vous aviez l'inconscience de vouloir voir ce truc, relèvera-t-on que, dans la deuxième partie, les personnages, quand ils arrêtent de blablater pour se mettre un petit peu à agir, et donc à partir en mer pour chasser le requin, prennent un bateau tragiquement trop petit, et se retrouvent non pas attaqués par le squale, mais percutés par accident par un plus gros navire qu'eux. Ce qui les envoie à la baille, ce qui en fait finalement une sorte de prédécesseur d'Open Water ou de The Reef. C'est la seule vraie bonne idée, mais pas vraiment appuyée par le fait que nos héros vont, pour garder le moral, se mettre à nouveau à raconter leur vie. Et c'est pas intéressant. Je veux dire, les gars, on en a rien à foutre de votre vie. Je sais bien que ça permet de créer une proximité pour pouvoir lancer la série télé. Mais si au bout de 10 minutes de parlotte, on a d'abord envie de voir le requin venir vous bouffer, c'est qu'il y a quand même un petit problème d'identification. Bah oui, le problème fondamental de ce Shark Hill, c'est que c'est un gros épisode de série télé, anesthésié par la modestie et la mollesse de ses moyens, qui n'arrivent pas vraiment à créer de tension dans les situations, surtout quand les deux héros passent leur temps à s'envoyer des petites vannes pas drôles pour essayer de tenir et de garder le moral. Le tout rallongé très au-delà du raisonnable par rapport aux ambitions pour tenir les 1h15-1h20 normales d'un pilote de série télé. Surtout que les deux personnages principaux, sans être complètement antipathiques, sont pas vraiment des monstres de charisme. Hein. Entre le biologiste marin Rick Diner, sérieux, solide, qui fait la gueule pendant tout le film, et Cabo Mendoza, le contrepoint, le mexicain, gouailleur et un peu grande gueule, bon, bah, on vous a déjà vu ailleurs et on vous reverra dans d'autres trucs. Hein.
Hey! Wait a minute!
Wouldn't the company give you a boat?
I don't work for them anymore.
Hey, Mac! Daner. Rick Daner. Cabo Mendoza.
Yeah, I know.
Look, I have a proposition. What do you say we go in this together, 50-50?
I don't think so.
Look, you can't pilot and hunt at the same time. You need another pair of hands.
It won't work.
I'm not in this just for the money, Dana. I've got personal reasons.
That's why it won't work. Too involved emotionally.
You bet your life I'm involved emotionally. And I want that shark. And I'm gonna work my tail off to get him.
Franchement, on a là deux archétypes sur lesquels on n'a pas envie de s'étendre. Parce que, ben voilà, on a une réalisation qui est monstrueusement formatée, façon téléfilm vieillot, de William Graham, qui a déroulé des épisodes télé de 1958 à 2002, hein, il a même terminé en tournant des épisodes d'X-Files, à raison de 4 ou 5 par an. Alors, oui, il tourne plat, il tourne efficace. C'est rien, vraiment pas grand-chose qui surnage, par peut-être ses héros à la fin du film. Tout comme la musique, d'ailleurs, de George Romanis, un jazzman qui nous sort une musique pas déplaisante, mais terriblement fonctionnelle, une musique de série télé des années 70. Alors, comme celle-ci est à peine mise en valeur dans le film, j'ai été chercher d'autres titres du bonhomme pour avoir ma musique d'arrière-plan. Bref, c'est pas foufou tout ça. Et c'est pas la version DVD qui va arranger l'ensemble, parce que l'éditeur américain Wild Eyes Publishing nous a sorti un master absolument dégueulasse. Un transfert flou et marronâtre, comme si on avait laissé la péloche moisir dans un bain d'eau de mer pendant pratiquement 30 ans. Incroyable qu'on ose vendre ça. Avec en plus pas la queue d'un bonus, hein. Alors habituellement je vous conseille pas de faire ça, mais plutôt que de respecter le travail des éditeurs qui eux respectent pas leurs spectateurs, le film il est dispo sur YouTube, hein, dans sa glorieuse version Chipo Crado, Faut vraiment être complétiste si vous voulez vous infliger ça. Moi, je l'ai vu une fois. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content surtout que ça se soit terminé. Voilà qui va me permettre de faire un peu plus court qu'à l'accoutumée, parce que franchement, j'ai rien à dire sur ce film. C'est d'ailleurs même pas un film, en fait. C'est quelque chose qui a été fait par des habitués de séries télé, des acteurs, on va les retrouver dans tous les épisodes de séries télé du moment, dans les années 70-80. Tous les responsables techniques, ils n'ont fait que passer d'un plateau de studio de télé à un autre. Et puis il faudra encore parler du requin, c'est à peu près toujours les mêmes images de documentaires animaliers, et puis la tactique habituelle quand on veut simuler les attaques, on a un gros plan sur le requin, on fait bouger la caméra, un retour sur le plongeur qui fait « Ah !» Et puis voilà, quoi. Les attaques, d'ailleurs, ça va aller vite, hein, il y en a deux. Il doit y avoir un mort et un blessé. C'est pas fameux, tout ça.
Hey, what's going on?
This fella here saw a shot.
So what? Should be down there with us. Slim and I saw at least half a dozen.
Blues. This is no blue.
No? What then?
Great white?
Banducci, you surprised me. How can you let yourself get spooked like that? Let's go, Slim.
I said it was a great white.
Marlin, maybe, or dolphin.
You'll let me go down there?
Well, Mr.
Dana!
Mr. Dana, we got a contract here to find that pig and open up the line. How do I do that if I don't send him down?
Mister, I know what I saw. You want to take that kind of responsibility?
Hey! Anyway, huh?
Alors, les capacités squalographiques de Shark Kills de 1976, l'originalité insuffisamment acquis. À part peut-être cette deuxième partie avec les héros dérivants, ce qui est un peu original pour l'époque, le reste est vaguement inspiré par Jaws, mais ça se résume essentiellement en grand bavardage entre les héros, leurs familles, les blessés, les autorités. Ce qui fait que l'histoire elle va être non acquise, on s'intéresse vraiment pas à ce qui se passe. Que les personnages, eux, sont insuffisamment acquis, grossièrement incarnés. Alors, ils sont pas antipathiques, hein. On sent quand même que ce sont des professionnels qui essaient de jouer leur rôle, mais ils sont très monolithiques, comme on incarnait souvent les héros de séries télé dans les années 60-70. L'ambiance est non acquise, on s'ennuie ferme. C'est vraiment le point noir. Ça a beau pas être très très long sur le papier, je comprends que les spectateurs à l'époque aient zappé sur autre chose. La réalisation est insuffisamment acquise. Alors, Graham filme très plan-plan, avec des moyens de téléfilm. Alors c'est évidemment pas magnifié par le master audio complètement immonde auquel on a le droit pour pouvoir voir le film, mais là, globalement, de toute façon, c'est tellement impersonnel. Quant au requin, c'est non acquis. Le requin, il nageouille placidement dans des documentaires animaliers. Il est même pas impressionnant. Et au final, on le voit très très peu. Hein. Il doit y avoir un moment, un bout de nageoire qui passe entre nos héros. Ça doit être à peu près le seul effet spécial du film. Ce qui nous donne un total de 3 sur 20, auquel je rajouterai rien. Parce que franchement, ça vaut pas le coup. Même si j'aime beaucoup les films des années 70, là, franchement, je peux pas sauver ce film. Qui est à fuir parce qu'il est profondément ennuyeux, alors vous allez pouvoir le retrouver assez facilement si vous cherchez sur internet. Mais à part si vous êtes aussi taré que moi et complétiste que moi, je vous déconseille franchement de vous risquer là-dessus. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus de passion à recompter les rayures de votre papier peint qu'à voir ce film. Dommage, on n'aura pas vraiment fait bonne pioche cette fois-ci. Allez, il est temps de voir ce que nous allons tirer pour la prochaine émission alors que nous annonce notre boîte à requins. Alors, qu'avons-nous ? La chasse au requin tueur. High Alarm auf Mallorca. Oh, les dents de la mer allemand. Film de 2003 de Yorgo Papavassiliou. Eh ben, le répéteur marche. Gott in Himmel. Bon, et puis, deuxième film. Sharktopus versus Werewolf, le troisième film de la saga Sharktopus de Kevin O'Neill en 2015, une production Corman. Eh ben, nous voilà beau. Bon, avant de se quitter, quelques recommandations. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Hollywood, jamais en reste pour faire des projets foireux, a annoncé qu'il avait un petit peu dans ses cartons des plans pour nous offrir un remake des Dents de la Mer. Très mauvaise idée. Je vous renvoie d'ailleurs à une petite vidéo en anglais de Cordery FX qui vous explique pourquoi c'est vraiment pas une bonne idée de vouloir refaire les Dents de la Mer. À quoi sert de réparer quelque chose qui n'est pas cassé ? Sinon, un podcast assez sympathique qui vient de sortir dans la collection Point Pop du magazine Le Point. Il s'agit de Cinécrash de Philippe Gage. Un podcast qui revient sur des films qui ont bidé au moment de leur sortie et qui parfois ont été redécouverts après coup, comme Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, qui ont parfois été aussi un peu réévalués, comme 1941 ou Showgirl, ou qui parfois ont été des échecs parfaitement justifiés, comme Valérian et Cité des Mille Planètes. Sinon, où est-ce qu'on peut se retrouver? Eh bien, toujours sur Twitter, @ultimetrico, sur les podcasts Nanarland, on devrait en avoir un qui va sortir sous peu sur les violences policières cette saison. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines pour le prochain épisode de Shark Parade. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.